50 minutes pour mieux comprendre, 04 76 46 45 45, les experts répondent à vos questions. Christian Rouget.
C'est éthique ? Oui, j'essayais peut-être vainement et un petit peu trop rapidement tout à l'heure d'éveiller cette curiosité qui serait déjà le premier gage d'un bon adepte d'ailleurs de la zététique. Vous me direz oui, ou on peut peut-être en savoir un petit peu plus. Bah écoutez, vous allez pendant une heure pouvoir en savoir un petit peu plus. Venez avec vos doutes, venez avec vos certitudes, on essaiera de mélanger tout ça et d'en sortir peut-être une vérité. La vôtre, la nôtre, la leur. Nicolas Vivant, Richard Monvoisin, tous deux de l'Observatoire Zététique sont mes invités.
Franck Matin, dès 9h10, les experts de France Bleu Isère répondent à vos questions.
Nicolas Vivant, bonjour.
Bonjour.
Richard Monvoisin, bonjour.
Bonjour.
Soyez bienvenus tous les deux de l'Observatoire Zététique. Alors j'ai essayé un petit peu trop rapidement tout à l'heure de faire jeu de mots et autres définitions. Simplement, en guise d'ignorance, j'essayais de faire un gros coup de peinture. Je vais vous demander d'éclairer un petit peu notre lanterne sur ce qu'est la zététique. Qu'est-ce qu'il veut répondre, Richard ?
Allez. Je m'y colle. La zététique, le mot vient du grec zétein, qui signifie chercher. C'est un mot qui avait été utilisé par le grec Pyrrhon, qui était un sceptique dit total. S'y croyait en rien, il pensait pas qu'on puisse bâtir une connaissance avérée, et il pensait que tout pouvait être mis en doute permanemment. Et ce mot a perduré jusqu'au XVIIe siècle. Pour ensuite sombrer dans l'oubli et renaître sous la plume de Henri Brock du laboratoire de zététique de Nice, un biophysicien qui dans les années 80 a voulu remettre ça au goût du jour pour créer une méthode d'investigation des phénomènes dits surnaturels.
Alors je vous classe comment ? Je vous classe philosophe ou scientifique ? Ou est-ce que vous refusez tout classement ?
C'est une bonne question. Probablement philosophe dans la façon d'appréhender le domaine. Et résolument scientifique dans la façon d'appréhender les protocoles expérimentaux que nous mettons régulièrement en place.
Alors Richard a mis le doigt là où l'éveil d'un seul coup de nos auditeurs et auditrices a dû briller immédiatement. Paranormal, ça y est, la science rentre dans ce domaine-là et c'est un petit peu là le plaisir de vous retrouver puisque finalement, grâce à vous, on essaye de chercher ce qui pourrait être réellement paranormal. Et en général, vous battez en brèche nos espoirs déçus. Mais est-ce que c'est le propre de l'homme, ça, de vouloir vivre au-delà du paranormal ?
Ben, c'est un gros fantasme. Hein. Disons que c'est toujours amusant de friser un peu les frontières d'un domaine. Et c'est vrai que tous les fantasmes que l'on nourrit, que ce soit en termes de télépathie, de pouvoir psy, aussi bien dans le domaine des manifestations même naturelles qui semblent extraordinaires, les maisons hantées, les esprits frappeurs. Il y a pas mal de choses comme ça qui se regroupent sous le même mot du paranormal, parce que c'est en dehors du normal, où on n'arrive pas encore à l'expliquer. Et nous, on se propose d'évaluer s'il est possible, en tout cas, d'expliquer ça de manière physique ou chimique. Et si on peut le faire, alors est-ce que l'hypothèse surnaturelle est nécessaire pour ensuite expliquer la chose ?
Alors, sous-pèse, voilà. Est-ce que vous avez des expériences personnelles de recherche ou de travail ou d'éveil ou de tests que vous pourriez juste nous raconter, enfin brièvement, sans passer par le menu, parce qu'il y a peut-être des gens que ça met en cause et qui n'ont pas envie d'être mis en cause, mais peut-être que vous avez des exemples anonymes à nous donner. Et puis si vous qui nous écoutez d'ailleurs, vous avez des doutes à lever ou au contraire des certitudes à apporter, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler, hein, 04 76 46 45 45. Nicolas, alors.
Alors nous avons deux types de travail qui est fait au sein de l'association. Un travail de dossier où on se penche sur des dossiers préexistants et on se borne à faire une recherche éclairée d'informations pour trouver une explication à des choses qui sont pas forcément expliquées. Pour prendre quelque chose de tout à fait récent par exemple, j'ai travaillé hier sur une histoire de fantôme sur un site web qui existe depuis 2001 où un père raconte qu'il est régulièrement hanté par son fils, son jeune fils décédé. Et là, le type de travail qu'on faisait, c'était simplement... Enfin, je me suis aperçu en me promenant sur ce site web qu'il y avait une page cachée qui donnait l'explication. C'est un auteur qui avait créé ce site de toutes pièces et qui le revendiquait dans une page qui n'était pas directement accessible. Donc voilà, un exemple de travail qui est purement un travail de dossier. Ensuite, on a un travail qui est beaucoup plus expérimental. Et on a notamment mis en place, donc l'année dernière, un test avec un magnétiseur que nous avons rencontré, avec qui nous avons beaucoup discuté. Et qui pratique le magnétisme, qui soigne les gens à distance, qui met à jour leur pathologie et qui ressent une espèce de signal en fait qu'il voulait mesurer. Donc voilà, on a travaillé sur sur ce cas-là et on a mis en place un protocole expérimental scientifique et rigoureux pour essayer d'observer donc ce phénomène, pour essayer de voir si ce signal que ressentait le magnétiseur était quelque chose qu'on pouvait saisir. Donc on a mis en place un protocole expérimental l'année dernière là-dessus. Le résultat a été négatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à mettre en évidence de phénomène. Mais en termes d'expérience personnelle, c'est quelque chose qui était riche et...
Alors, si vous le voulez bien, Nicolas et Richard, quelques notes de musique qui ne sont pas du tout virtuelles. Et après quoi, j'aimerais qu'on parle de ce protocole pour que vous puissiez nous expliquer le matériel, l'outil, l'approche dont vous avez fait preuve pour évoquer finalement le fait que ça n'existait pas. Ou au contraire, est-ce que il était de bonne foi ou est-ce que c'était un charlatan? Ça, c'est peut-être un jugement purement humain, mais qui nous intéresse aussi.
Les experts, vos questions au 04 76 46 45 45 ou sur bleuisère.com. Chaque matin, dès 9h10, les experts de France Bleu Isère répondent à vos questions.
Nicolas Vivant, Richard Monvoisin, tous deux de l'Observatoire Zététique sont avec nous ce matin. On évoque la façon dont la science, avec plein de doutes autour d'elle, peut essayer d'apporter des solutions ou avérer quelques situations jugées paranormales pour la plupart d'entre nous. On évoquait tout à l'heure un protocole concernant un magnétiseur. Vous aviez dit que vous aviez été sur place pour mesurer l'existence ou la non-existence de ce fluide, enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut l'appeler. Alors vous êtes arrivé quoi avec valise, mesure, enfin je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé.
Alors le magnétiseur nous a contactés, c'est lui qui est venu à nous parce qu'il ressentait ce signal qu'il ne s'expliquait pas et parce qu'il avait une vraie volonté de comprendre de quoi il était constitué. Et donc il est vraiment arrivé en disant aidez-moi à mesurer ce signal. On s'est assez vite rendu compte que parce qu'on ignorait la nature du signal. Le mesurer serait quelque chose d'absolument impossible. On ne peut pas mesurer quelque chose dont on ne sait pas s'il est magnétique, électrique. Et on s'est rendu compte surtout qu'on était déjà un peu dans la théorie explicative si on partait sur le principe de la mesure. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut observer ça? Est-ce qu'on peut observer l'existence de ce signal-là? Et on est parti de trois en fait paramètres invariables chez le magnétiseur et qui sont révélés au cours de nos discussions. La première chose, c'est que le signal fonctionnait à travers les vêtements. La deuxième chose, c'est que le signal était relativement stable dans le temps, c'est-à-dire qu'une zone identifiée par le magnétiseur à un instant donné pouvait être identifiée de nouveau par lui 20 minutes plus tard. Et il n'y avait pas de trace laissée par le patient, il n'y a pas de trace laissée par le signal entre deux patients, disons. Partant de ce principe-là, on a demandé au magnétiseur s'il pensait, parce qu'il ressentait le signal à distance, y compris à travers les vêtements, s'il pensait pouvoir déterminer si une personne cachée à sa vue, par un drap, une toile ou peu importe, s'il pouvait déterminer ou pas la présence d'une personne cachée à sa vue en fonction du ressenti ou non du signal. Voilà. Et on est parti de ce principe simple. On a mis en fait en place un paravent avec une toile opaque dessus, derrière laquelle on a mis une personne que le magnétiseur a choisie pour notamment la qualité du signal qu'il ressentait à son contact. Et donc on a fait une centaine d'essais avec un tirage au sort et la personne était soit derrière le paravent, soit elle ne l'était pas. Et on demandait au magnétiseur de déterminer si la personne était là ou pas en fonction de son ressenti du signal. Voilà. À la fin des 100 essais, on a simplement comparé les résultats du magnétiseur avec le tirage au sort qui avait été préétabli et qui avait déterminé si la personne devait ou pas se placer derrière le paravent.
Et alors, par rapport au hasard complet, il était meilleur ou moins bon?
Disons qu'au hasard complet, une personne qui, vous ou moi, aurions fait le même test, on aurait, dans plus de 99% des cas, obtenu entre 35 et 65 tirage positif. Voilà, donc ça, c'est le hasard. C'est-à-dire que si le magnétiseur avait une performance en dessous de 35 essais positifs, ça aurait été extraordinairement faible. S'il avait eu une performance au-delà de 65 essais positifs, c'est probablement qu'il y avait quelque chose, effectivement, à observer. Le magnétiseur a une performance de 55, en fait, essais positifs sur 100. Et donc, on peut considérer que la mise en évidence du signal est un échec. Le magnétiseur qui nous a contactés souhaitait publier les résultats de cette expérience qu'on mettait en place. Il faut savoir que c'est très très rare ce type d'expérience en France. Et à ma connaissance, il n'y en avait même jamais eu. Ils souhaitaient publier, évidemment, au regard des résultats négatifs. il était plus intéressant pour lui de publier du tout. Par contre, pour nous, évidemment, ça restait intéressant. Donc, on a publié ça sur notre site web en conservant l'anonymat du magnétiseur à sa demande, évidemment.
D'accord, légitime. Mais Richard, si ce magnétiseur était tellement convaincu, était prêt à publier les résultats, ça veut dire qu'il est... Il y croyait vraiment? Alors, où est la part d'autosuggestion? Qu'est-ce qui fait que les patients allaient chez lui avec cette même autosuggestion, finalement? Parce que si l'un est convaincu d'avoir quelque chose et les autres sont convaincus de le recevoir, finalement, est-ce qu'on a besoin de prouver qu'il y a quelque chose?
C'est difficile à dire pour la personne en question, là, parce que... Donc, elle a, outre le magnétisme, elle utilise d'autres méthodes en même temps. Donc, il y a peut-être un champ de sa connaissance qui permet de guérir. Mais... je dirais en tout cas que dans le domaine du magnétisme à part entière, ce qu'on pourrait appeler les effets placebo s'exprime vraiment clairement. On révèle ça à ses voisins ou à ses amis, disons de bouche à oreille, ce qui est quand même assez intéressant. La personne est censée être désintéressée, ce qui est quand même un certain détachement vis-à-vis d'une guérison. Ça change un peu du modèle de médecine dite officielle, un peu rigide, on vous prend 5 minutes entre deux portes. Et puis on utilise des méthodes qui sont un peu alternatives, on n'est pas dans le tout médicament, et ça convainc les gens. Et les gens se sentent investis d'une connaissance un peu ésotérique, et se disent « bon, bah, tiens, passe par là, et tu arriveras peut-être à une... » Et par suggestion, on peut arriver à des bien-être, sachant que le bien-être est une notion éminemment subjective, hein. Il suffit de convaincre quelqu'un qui se sent bien pour qu'il se sente bien, souvent. On peut penser que la part de suggestibilité chez les patients, dans le cas d'un magnétiseur, est forte, est vraiment forte.
D'accord.
Mais chez un médecin aussi, hein, de toute façon.
Bon, alors le débat va être lancé d'ici quelques...